tout à l'heure, à partir de 10h10 TU.
RFI. RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
Le journal Nemo en Peace.
Et cette édition largement consacrée à la situation dans l'est de la RDC. Hier, les combats se sont poursuivis non loin de Goma, mais également dans le sud Kivu, à une centaine de kilomètres de la capitale du nord Kivu. Des tensions persistantes qui ont mené au rappel par Kinshasa de ses diplomates basés à Kigali. La RDC mécontente de la réaction de l'Union africaine qu'elle juge tardive et confuse, alors qu'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies prévue demain aura finalement lieu tout à l'heure. Dans le reste de ce journal, le porte-parole du gouvernement gabonais devant la presse après le choix du 12 avril comme date de l'élection présidentielle. Et puis notre dossier du jour au Kenya où une association tente de faire revivre le twist africain à travers une pièce de théâtre. Toujours pas d'arrêt des combats ce samedi dans l'est de la RDC. L'armée congolaise et ses alliés ont affronté le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Un point concernant la situation sur le terrain a été fait hier lors d'une conférence de presse conjointe en présence du ministre de la Communication Patrick Muyaya et du général Sylvain Ekenge, porte-parole des FRDC, qui est notamment revenu sur les circonstances de la mort du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Compte rendu depuis Kinshasa, Patient Ligodi.
Le général Sylvain Ekenge a annoncé que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a été abattu par un sniper de l'armée rwandaise alors qu'il accompagnait le commandant de la 34e région militaire pour galvaniser les troupes à Mubambiro près de la cité de Sake. Un de ses gardes du corps a également été tué, tandis que deux autres ont été blessés mais sont hors de danger. Concernant la situation sur le terrain, le porte-parole des forces armées de la RDC a indiqué que les combats autour de Goma se poursuivent. Avec l'appui de la MONUSCO et des troupes de la SADC, le FRDC ont réussi à stopper dit l'avancée des forces rwandaises et du M23 tout en affirmant que le FRDC ne les laisseront pas entrer à Goma. Dans le sud Kivu, les combattants du M23, a-t-il dit, ont tenté de progresser vers Niamibwe à environ 100 km de Goma mais ont été stoppés. Toujours selon le général Ekenge, les opérations se poursuivent. Face à l'ultimatum des 48 heures donné par le M23 au FRDC, le général a répondu avec fermeté « C'est maintenant que la guerre commence ». Enfin, sur le plan diplomatique, le ministère congolais des Affaires étrangères a annoncé le rappel de ses diplomates basés à Kigali avec effet immédiat. Il demande aux autorités rwandaises compétentes de tirer toutes les conséquences de cette décision en cessant, dans un délai de 48 heures, toutes les activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Les autorités rwandaises qui, de leur côté, ont tenu à réagir aux accusations de l'UE et de l'ONU sur leur participation à l'offensive du groupe armé M23. Les deux institutions qui demandent au Rwanda de retirer ses troupes présentes dans l'est de la RDC. Bruxelles qui évoque une violation flagrante du droit international, des déclarations jugées déséquilibrées par le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais hier et qui, selon cette même source, ne dénonce pas suffisamment l'association entre l'armée congolaise, des milices comme les FDLR et des mercenaires européens. Autre réaction qui était très attendue, celle de l'Union africaine. Hier, dans un communiqué, le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, a appelé à la stricte observation du cessez-le-feu convenu entre les parties. Dans ce texte, l'UA ne mentionne pas en revanche le respect de la souveraineté de la RDC, ni ne condamne la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Autre point qui irrite Kinshasa, l'UA évoque une tension persistante entre le gouvernement congolais et son opposition politico-militaire, sans nommer précisément le groupe M23, de quoi faire vivement réagir Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. C'était également lors de la conférence de presse tenue hier à Kinshasa.
L'Union africaine réagit après l'Union européenne et d'autres institutions. C'est regrettable. Et lorsque vous décidez de sortir du silence, vous revenez pour semer la confusion. À quel moment ces mouvements terroriste s'est elle-même présentée comme une opposition politico-militaire. Je ne suis pas à la place de ma collègue des affaires étrangères, mais ça, c'est déjà indicatif. Lorsque vous vous trompez sur les diagnostics, lorsque vous n'êtes pas en mesure de reconnaître la terreur d'un mouvement qui s'en prend au casque bleu, le crime de guerre, qui s'emploie aux soldats qui sont envoyé dans les cadres d'une mission mandatée par l'Union africaine, il y a véritablement un problème. Et je pense que ma collègue des affaires étrangères, dans les us et coutumes diplomatiques, s'assurera que ces messages passent. C'est vraiment regrettable de se tromper de cette manière-là.
Les combats de ces derniers jours ont fait plusieurs morts parmi les soldats des forces régionales, mais aussi des Nations Unies. 9 soldats sud-africains ont été tués. 7 portaient l'uniforme de la force de la SADC, 2 autres celui de la MONUSCO, la mission onusienne de stabilisation. 3 soldats malawites et 1 uruguayen ont également été tués. On évoquait un peu plus tôt le communiqué de l'UA. Moussa Faki Mahamat y appelle également toutes les parties à préserver la vie des civils. Une inquiétude partagée par les ONG de défense des droits humains. Préoccupation notamment autour de la capitale du Nord Kivu, Goma. L'électricité y est coupée depuis 2 jours. Les habitants n'ont plus d'accès à l'eau et le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter. On en dénombre au moins 800 000, soit l'équivalent de la population initiale. Ces civils qui pourraient être particulièrement touchés par le conflit, comme nous le dit ce matin Clémentine de Montjoie, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch.
Ça aurait des conséquences absolument catastrophiques sur la situation humanitaire. Selon le droit de la guerre, les parties au conflit se doivent de faire le maximum possible pour faire la distinction entre les civils et les combattants. Donc, plus le conflit se rapproche de cette ville où se trouvent aujourd'hui probablement environ 2 millions de personnes, le plus on voit les civils à risque d'être touchés par le conflit. Et le CICR a aussi sorti un communiqué disant qu'ils sont submergés de patients, et notamment des civils, des femmes et des enfants. Un autre problème à Goma aujourd'hui est que depuis la prise de Minova plus tôt cette semaine, la dernière route d'approvisionnement pour Goma a été coupée. Les bateaux n'ont pas le droit de circuler entre Minova et Goma, donc la ville se retrouve aujourd'hui entièrement encerclée. Donc la question de l'acheminement de l'aide humanitaire va être absolument critique alors que les hostilités se rapprochent de jour en jour.
Clémentine de Montjoie avec Guillaume Thibault. J'ajoute que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité prévue demain aux Nations Unies est finalement avancée à ce dimanche à partir de 16h, heure de Paris et de Kinshasa. Kinshasa où l'on appellera notre envoyée spéciale permanente Pauline Azidi dans le prochain journal.
RFI.
Au Gabon, après le choix du 12 avril comme date pour l'échéance présidentielle, les préparatifs s'accélèrent. La révision de la liste électorale prend fin vendredi et le code électoral a été promulgué par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Hier, c'était au tour du ministre de l'Intérieur de s'exprimer devant la presse, entre autres pour expliquer la date avancée du scrutin initialement prévue en août. RFI Libreville, Yves-Laurent Goma.
Le chronogramme était à titre indicatif, a affirmé le ministre Herman Imongo, soutenant que l'exécutif a ressenti un besoin de vite sortir de la transition et retrouver un ordre constitutionnel normal. Les raisons économiques ont aussi motivé le choix de la date du 12 avril, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Tant que l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, beaucoup de portes nous sont fermées, a-t-il avoué. Herman Imongo a également répondu aux attaques contre son ministère, désormais chargé d'organiser les élections. C'est une recommandation des Gabonais lors du dialogue national inclusif, s'est-il défendu, démentant un possible conflit d'intérêts car l'administration est neutre, a-t-il dit. Dans une conférence de presse, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bidé-Binzé a battu en brèche ses arguments. C'est la mauvaise gestion qui oblige les bailleurs de fonds à fermer le robinet, a-t-il soutenu. Après avoir dénoncé le code électoral qui permet aux militaires de briguer les suffrages des populations, Bidé-Binzé a dit qu'il est prêt à être candidat à l'élection présidentielle, mais annoncera sa décision finale en mars prochain. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
RFI 7h39 à Yaoundé au Cameroun. On vous en parlait en fin d'année dernière. La suspension des activités du REDAC, le réseau des organisations des droits de l'homme en Afrique centrale. Eh bien, cette décision prise par les autorités est pointée du doigt par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, un organe de l'UA. Dans un communiqué, elle épingle le Cameroun pour des restrictions récurrentes à la liberté d'association et de réunion. Une prise de position dont se réjouit Maximilienne Gombe, directrice du REDAC. Elle demande notamment aux autorités d'initier un dialogue constructif avec la société civile.
Le Cameroun est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Commission africaine, c'est l'émanation, c'est une institution qui vient de l'Union africaine. C'est en Afrique qui disent « nous ne voulons plus ceci dans notre pays. Nous voulons des associations fortes qui peuvent nous apporter des contradictions pour que nous puissions avancer. » Le Cameroun, nous sommes en une année électorale. Si on commence à bâillonner, à trouver tous les méthodes inappropriées pour faire taire des associations et surtout les femmes défenseurs des droits humains qui dirigent les associations savent très bien que la paix va être, n'est-ce pas, menacée et même la cohésion sociale. Ce que nous attendons, c'est simplement qu'il y ait peut-être des espaces de dialogue entre les autorités en charge des associations et nous. Nous ne sommes pas en conflit. Il faut discuter, il faut dialoguer. Nous sommes prêts. On peut mettre tout sur la table.
Maximilienne Gombe avec Lisa Fabian. Et puis notre dossier du jour pour refermer ce journal. Au Kenya, on fait un bond de 60 ans en arrière. Nous sommes dans les années 60. Le pays vient de célébrer son indépendance et danse au rythme du twist africain. C'est le thème d'une pièce de théâtre intitulée African Twist et jouée jusqu'à aujourd'hui à Nairobi. On y suit le parcours de quatre musiciens de l'époque qui ont fait naître ce nouveau genre musical, revisité au rythme du continent. Le reportage de notre correspondante Alban Tiroir.
La pièce est rythmée par des chansons de twist africain, ce genre musical qui mélange twist classique avec des airs de kwela sud-africain. Sur scène, entre deux dialogues, les acteurs chantent, dansent et racontent la vie dans les années 60 au Kenya en mélangeant divertissement et références historiques. Paul Kalemba, auteur de la pièce.
L'objectif, c'est que les personnes les plus âgées en ressortent avec un sentiment de nostalgie. Pour les générations plus jeunes, j'espère qu'elles sortiront de la représentation en se disant « Waouh, les années 60 étaient dynamique. Nous n'avons pas inventé la musique. En fait, nous voulons créer un pont entre le passé et le présent. Nous ne demandons pas à la génération actuelle de jouer de la musique des années 60, mais nous espérons l'inspirer. »
Une inspiration qui a déjà commencé au sein même de la troupe, c'est le cas pour Ojwang Eiro. Il joue le rôle de Daoudi Kabaka, un des musiciens pionniers du twist africain.
Je suis moi-même musicien et je joue des genres assez similaires. J'ai beaucoup lu sur le twist africain, j'en ai beaucoup écouté et ça m'inspire beaucoup. Des artistes comme Daoudi Kabaka ou Fadili Williams, par exemple, ont fait de moi le musicien que je suis aujourd'hui.
Au-delà de la musique, la pièce évoque aussi la situation politique de l'époque. L'indépendance du Kenya en 1963 ou encore les assassinats de figures politiques comme Pio Gama Pinto. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et l'idée de cette pièce de théâtre est née des recherches de l'association Kitiboul. Elle a pour but de préserver et de promouvoir la culture de la musique kenyane et documente ainsi les genres musicaux qui ont rythmé le pays au cours des 6 dernières décennies. Et l'un des constats de cette association, c'est que le twist africain est pratiquement inconnu par les nouvelles générations. Tabou Osusa a donc voulu le remettre sur le devant de la scène en produisant cette pièce de théâtre. C'est le directeur de Kitiboul Music.
Ce sont deux Zambiens qui sont venus au Kenya à cette époque, Nashil Pitchen et Peter Tsos, et qui ensemble, avec un producteur de musique britannique, ont mis au point ce genre différent, chanté principalement par Daoudi Kabaka, Fadili Williams ou encore John Nzenze. Ce sont les pionniers du twist africain. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Je ne suis pas sûr que ce twist africain ait été populaire à travers tout le continent, mais ce qui est certain, c'est que c'était très très populaire en Afrique de l'Est durant toute la période pré- et post-indépendance. C'était un genre musical qui symbolisait l'espoir. À l'indépendance, les Kenyans étaient pleins d'optimisme. Les colons étaient partis, un nouveau pays naissait, mais petit à petit, les politiques ont commencé à décevoir la population. L'idée d'une terre promise s'est effacée et avec elle, le twist.
Let the people down. It was no longer the promised land. The twist died.
Tabou Osusa, directeur de l'association Kitiboul Music, au micro d'Alban Tiroir, notre correspondante à Nairobi, qui signe ce dossier du jour. Il est à retrouver sur RFI.fr.